Il naît du doute et de la peur, il est source de difficultés, d'angoisse et de souffrance, le manque de confiance. Retrouver donc la confiance et comprendre les mécanismes de la peur, c'est s'intéresser au champ de nos émotions, ce que nous allons faire cet après-midi pour savoir comment se libérer de ces peurs, retrouver une confiance véritable. Dossier de la tête au carré avec un éclairage sur notre psychisme et sur notre cerveau. Et j'attends dès maintenant vos témoignages sur franceinter.fr avec toutes vos questions également sur le mot-clé l'attaque. L'utilisation des téléphones portables a-t-elle fait exploser le nombre de cancers du cerveau? Il semble que non, selon une étude publiée cette semaine, et c'est aujourd'hui à la une de la science. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu. Une étude importante qui montre qu'en 30 ans d'utilisation du téléphone portable, rien n'a changé dans le cerveau des Australiens. Des résultats rassurants, on en discute dans un instant avec vos questions sur Twitter également.
Stéphanie Texier est aux commandes de cette tête au carré préparée aujourd'hui par Camille Jusot avec Dylan Bider.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Retrouver la confiance, thème donc de notre dossier dans quelques minutes. Et pour en parler, je serai avec le psychiatre Christophe Massin et le neurologue Yves Agide. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bienvenue. Christophe Massin, pour retrouver la confiance, il faut d'abord aller embrasser ce qui fait peur et ce qui blesse.
Oui, c'est pas en fuyant la peur qu'on va trouver la confiance. En fait, il y a une démarche pour accepter ses peurs en priorité.
Ouais, et vivre avec. Yves Agide, est-ce que notre cerveau active des circuits particuliers lorsqu'il a peur, justement?
Oui. Vous m'avez demandé d'être bref.
Oui, ben là, un petit peu, quand même, si vous pouviez développer un minimum, 15 secondes, 20 secondes.
Oui, il y a des circuits multiples dans le cerveau qui commencent à être identifiés, qui véhiculent, disons, les routes, qui véhiculent nos émotions, nos sentiments, nos passions, à des degrés divers. Et en ce qui concerne la peur, il y a même des structures un peu particulières. J'espère qu'on en parlera.
Mais certainement, puisqu'on va se retrouver dans quelques minutes pour emprunter ensemble les chemins du psychisme et du cerveau, confiance et peur, et les messages des auditeurs qui nous parviennent. Les ondes de nos téléphones portables pénètrent nos cerveaux depuis maintenant plus de 30 ans. Sont-elles dangereuses ou non? Une réponse, en tout cas, aujourd'hui, à la une de la science.
Alors le Bluetooth, c'est génial parce que le téléphone, là, carrément, il est carrément incrusté dans ton oreille. C'est-à-dire, carrément, les ondes, elles vont directement dans ton cerveau. Avec une antenne, on te dirait un télétobise. Hein.
Et la voix de l'humoriste Titoff pour introduire donc cette étude australienne publiée cette semaine et qui s'est intéressée à l'évolution sur 30 ans des 4 cancers du cerveau dans l'ensemble du pays en lien avec l'usage des téléphones portables. Catherine Hill, vous êtes avec nous pour en parler. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes épidémiologiste à l'hôpital Gustave Roussy pour commenter donc ces résultats. 30 ans d'exposition de plus en plus forte avec l'utilisation des portables. Et donc cette étude nous dit qu'il n'y a aucun impact visible sur l'apparition des cancers du cerveau. Qu'est-ce que vous pensez de ces résultats ?
Je pense que c'est un travail bien fait. C'est une vaste expérience en grandeur nature sur 24 millions d'Australiens. 20% avaient un téléphone en 95, plus de 80% ont un téléphone en 2005. Donc, on est rentré en masse dans l'utilisation du téléphone. Et pendant ce temps-là, il y a un registre national des cancers en Australie. Donc, tous les cas sont enregistrés sérieusement. Et on le voit, absolument aucune augmentation du risque, sauf chez les plus de 70 ans.
Comment on explique ce cas-là des plus de 70 ans?
Par l'amélioration des diagnostics, parce que quand les gens âgés, il y a 10 ou 15 ans, avaient mal à la tête, étaient très malades, on allait moins facilement faire un scanner, une IRM, et les diagnostics étaient moins faits. On observe cette augmentation, cet artefact pour pas mal de cancers. Quand ça n'augmente que chez les gens âgés, c'est juste l'amélioration de la connaissance. On voit ça très bien. On voyait ça autrefois avec le cancer de l'estomac qui diminuait terriblement, sauf chez les gens très âgés, parce que l'amélioration des diagnostics faisait une augmentation artefactuelle.
Alors, quand on voit ce genre de résultats, évidemment, on s'interroge tout de suite sur l'origine de l'étude, sa fiabilité. On pense évidemment au lobby, pourquoi pas, des grands de la télécommunication. Est-ce que là, on peut être vraiment confiant par rapport à cette étude?
On ne peut pas faire plus objectif qu'un registre national de tous les cas de cancer dans un pays.
Vous connaissez l'auteur de l'étude?
Pas du tout, non.
Il est fiable, selon vous, ou pas?
Sûrement, oui.
Vous êtes renseigné, en tout cas.
Oui, c'est un professionnel de la santé publique.
Qui a dénoncé d'ailleurs d'autres liens sur d'autres sujets ou pas?
C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur les cancers liés à l'industrie du tabac.
Bon, donc a priori, c'est pas sur ce genre de dossier qui pourrait être pris la main dans le sac?
Non, pas du tout, oui. Bon. J'ai vu son nom, effectivement. Je connais juste son nom.
Ça veut dire que des ados qui auraient commencé le téléphone à 15 ans en l'an 2000 à peu près et qui ont 30 ans aujourd'hui, on aurait des effets visibles maintenant dans les données épidémiologiques, c'est sûr?
Si le risque était... Ils ont pris comme modèle, qu'est-ce qu'on verrait si le risque était augmenté de 5% par l'utilisation ? Et donc, dans l'article, on voit ce qu'on a observé et ce qu'on aurait observé s'il y avait eu une augmentation de 5% chez les utilisateurs, en prenant le pourcentage d'utilisateurs qui varie avec les années. Et donc, on voit bien que ça ne colle pas.
Est-ce qu'il y a encore un débat scientifique sur cette question ? Parce qu'elle dure depuis longtemps, les résultats se contredisent.
Ah, il y a un énorme débat scientifique parce qu'il y a des lobbies, parce qu'il y a des gens qui ont peur et qui sont contents d'entretenir la peur, ce qui renvoie à la suite de la discussion d'aujourd'hui. Il y a un débat aussi parce que la pratique qui consiste à faire de multiples enquêtes, en posant de multiples questions, crée des artefacts statistiques où on trouve un faux positif par-ci, par-là, et on le met en épingle et c'est cité partout. La plupart des études sont des enquêtes dites cas témoins où on interroge, on reconstitue l'exposition, l'usage du téléphone portable de gens qui ont déjà une tumeur cérébrale et de témoins. Et bien sûr, ils se souviennent pas de la même manière. Donc ça, c'est une source de biais. C'est une source d'erreur.
Très important.
Assez important. Hein. Et donc, voilà. Et il y a des gens qui pensent que c'est terrifiant. Donc ils vont monter en épingle tous les signaux qui sont des artefacts. Donc c'est très difficile de s'y retrouver et le débat va continuer.
Là, c'est une étude australienne. Est-ce qu'on a ce type d'étude ailleurs dans le monde?
Oh Catherine, oui, dans la discussion, on voit bien que ça, aux États-Unis, on ne voit pas non plus d'augmentation du risque de tumeur cérébrale, au Danemark non plus, etc., dans les pays nordiques. Donc.
Yves Agide, vous qui travaillez sur le cerveau, évidemment.
Non, moi, j'ai toujours eu la conviction que s'il y avait un faux débat... Il y a une raison aussi supplémentaire.
Enfin, le débat, on a raison de se poser la question. Hein.
Oui,
C'est quand même pas anodin de se poser un appareil
on
sur l'oreille.
On pourrait se la poser de façon plus importante pour la fumée ou pour l'alcool, par exemple. Dans ce cas-là, si vous voulez, moi j'ai une raison supplémentaire, c'est que je ne vois pas scientifiquement comment des ondes électromagnétiques extrêmement faibles, des courants et d'une telle faiblesse, puissent intervenir sur les cerveaux alors que nous sommes soumis, nous-mêmes, à des inférences et à des afférences d'autres natures beaucoup plus importantes. Donc moi, j'ai toujours été un peu suspicieux. Je suis très content de voir que... Et enfin, on peut enfin démythifier ce problème de manière, à mon avis, définitive, d'après ce que vous dites.
Comment on explique cette peur et peut-être cette lubie chez certains experts, même, de trouver quelque chose dans ce sujet ?
Moi, je pense qu'on est dans une période aujourd'hui où il y a un mouvement qui est contre la science, qui est contre la médecine, et qu'on trouve des, à propos d'un cas, à propos de deux cas, trois cas, etc., des gens se mettent en tête que, à propos de quelques cas, surtout quand ça le concerne, ils font une relation entre ce qui se passe et eux-mêmes, et essaient de le généraliser, ce qu'on appelle des amalgames. Et je pense que c'est normal que ça arrive, mais il y a actuellement un climat de suspicion. Suspicion, en général, c'est bien d'être un peu sceptique, pas trop.
Catherine. Ça rejoint le thème de l'émission, la confiance.
Exactement, la confiance et la peur. Catherine Hill, donc cette publication qui est sortie cette semaine, sur l'innocuité, en tout cas pour l'instant, des téléphones portables en lien avec les cancers du cerveau. Merci beaucoup d'être venu nous commenter cette étude. Axel, bonne journée.
Merci Mathieu.
Et on se retrouve demain pour une nouvelle Une de la science. Allez, on... Dans le reste de l'actualité scientifique, le télescope spatial Kepler a découvert 1284 nouvelles exoplanètes, une moisson impressionnante dévoilée hier par la NASA et qui double le nombre de planètes connues hors de notre système solaire. 9 de ces nouvelles exoplanètes semblent se situer dans la zone habitable de leur étoile, ainsi de l'eau liquide pour y être présente et éventuellement la vie. Le nombre total, en tout cas, des planètes potentiellement habitables découvertes par Kepler passe donc de 12 à 21. La NASA estime maintenant qu'il pourrait y avoir plus de planètes que d'étoiles dans l'univers, de quoi nous redonner l'espoir de découvrir donc un jour la véritable sœur jumelle de notre Terre. Les crèmes et les pansements seront-ils bientôt obsolètes ? Des chercheurs américains ont mis au point un produit baptisé XPL, agissant comme une seconde peau, capable de créer une fine couche protectrice et invisible, efficace contre les cernes et les rides. Il permettrait d'hydrater l'épiderme pendant toute une journée. L'entreprise à l'origine de cette innovation espère l'utiliser pour traiter les problèmes de peau tels que l'eczéma. Pour le moment, seules 170 personnes ont expérimenté le produit. D'autres tests donc sont à prévoir avant de juger de l'efficacité du traitement. Et puis les reptiles fascinent le web des des scientifiques de l'université d'Oxford et de l'université de Tel Aviv se sont amusés à classer les reptiles par ordre de popularité sur Internet. Et pour cela, les chercheurs ont analysé 55 millions de pages Wikipédia visitées en 2014 pour l'ensemble des 10 000 espèces de reptiles accessibles sur le site. Il semblerait que les espèces redoutables, venimeuses ou en voie de disparition comme le dragon de Komodo, le crocodile marin ou le cobra royal soient les plus populaires. Outre le fait que cette étude soit amusante, elle fournit également des données précieuses dans le débat entourant les priorités de conservation. Vous pouvez retrouver le top 10 de ces animaux sur la page Facebook de La Tête au Carré. Allez, retrouver la confiance, justement, avec la peur. Nous en parlons aujourd'hui, toutes ces émotions évoquées avec nos invités et vos messages. C'est le dossier de La Tête au Carré. Numbers avec Daughter.
La Tête au Carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Yes, 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 ici Laurent, le kiffeur de la life. Aujourd'hui, je vais te parler de comment prendre confiance en soi, comment avoir confiance en soi. Comment faire pour avoir confiance en soi? La première chose que tu dois savoir, c'est que tu dois kiffer la life. Tu dois aimer la vie, parce que plus tu vas aimer la vie, et plus la vie va t'aimer, plus tu vas t'aimer toi, et plus ce qui t'entoure va te paraître positif. Donne du positif et tu reçois du positif. Donne du négatif et tu recevras du négatif. Je prends toujours l'exemple de quand tu dis bonjour à quelqu'un, tu dis bonjour. En général, la personne te répond bonjour. Mais quand tu dis à la personne, t'es nul, en général, la personne te dit toi aussi. Donc la première chose, c'est vraiment, le premier conseil que je te donne, c'est de kiffer la life.
Voilà, ben c'est plutôt un bon résumé, moi je trouve, de votre ouvrage, Christophe Massin, pour parler de la confiance retrouvée aujourd'hui, dossier de la tête au carré, avec également Yves Agide. Christophe Massin, vous êtes psychiatre et donc vous publiez ce livre « Une vie en confiance », dialogue sur la peur et autres folies. Hein, on va expliquer tout à l'heure pourquoi ce sous-titre. C'est chez Odile Jacob. Et puis Yves Agide, vous êtes neurologue, membre fondateur de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, membre de l'Académie des sciences. Et en 2013, vous avez publié chez Robert Laffont « L'homme subconscient, le cerveau et ses erreurs ». Avec donc les messages et les témoignages des auditeurs qui arrivent sur le site de La Tête au Carré. Christophe Massin, d'abord votre livre, il est écrit sous la forme d'un dialogue avec un homme et une femme, des questions et des réponses donc sur les blocages, entre autres, hein, qui empêchent de trouver la confiance. Vous avez écouté des centaines de personnes déjà à ce sujet depuis très longtemps. C'est un thème qui revient souvent dans vos échanges avec vos patients.
En fait, c'est le thème, je dirais, central, qui est sous-jacent à beaucoup de difficultés psychiques. La peur, pour moi, est l'émotion aliénante par excellence. Et donc, qui va entraîner des tas de dysfonctionnements, des évitements, des compulsions, des actions irréfléchies. Donc, elle va saboter souvent, en fait, nos relations, saboter nos projets, nos actions, nous donner un sentiment d'insécurité. Donc, la peur est extrêmement présente dans la souffrance psychique. C'est pour ça que j'ai senti vraiment important d'en parler. Combien de personnes aussi, et pas seulement les gens que je vois partout, j'ai aussi travaillé en entreprise, sont habitées par des peurs comme ça, psychologiques, qui leur pourrissent plus ou moins la vie.
Oui, et donc ce manque de confiance qui en découle tout à fait directement.
Voilà, donc la confiance, c'est pas contre la peur, c'est au contraire trouver en soi un sol plus ferme qui inclut qu'on puisse avoir peur. Parce que si, pour avoir confiance, il ne fallait plus avoir peur de rien, qui aurait confiance,
en fait. Et puis la peur, on va le voir, sert aussi à quelque chose. Hein. D'ailleurs, les neurosciences ont des choses à nous dire à ce sujet. En tout cas, votre approche à vous, Christophe Massin, elle associe donc les mécanismes psychologiques, hein, cette compréhension de ces mécanismes, avec la prise en compte de la dimension spirituelle de l'humain. Donc ça, c'est vraiment votre approche. Et puis de l'autre côté, avec vous, Yves Agide, on va interroger les neurosciences. Donc il y a une bonne complémentarité, au fond, sur un tel sujet. Là, on va se faire rencontrer des disciplines en apparence très différente.
Et j'espère convergente.
Ouais. Et sur le cerveau, justement, on a des thèmes comme la confiance qu'on peut aborder, ou au fond, on va plutôt aller du côté de la biologie pour expliquer les mécanismes sous-jacents à la peur.
Pour moi, il
n'y
a pas de différence, vraiment. La psychologie, c'est dans le cerveau que ça se passe. C'est pas... Le cerveau, qu'est-ce que c'est une sorte de machine qui est en dérivation sur l'environnement, qui reçoit des percepts, qui agit, qui modifie l'environnement, etc. Donc nous sommes, nous-mêmes, c'est notre cerveau, l'essentiel, le reste, c'est quand même des exécutants. Donc en ce sens, c'est clair que la psychologie en général, c'est-à-dire tout ce qui concerne les affects, tout ce qui concerne aussi l'intelligence, enfin la cognition, a des bases dans le cerveau, des bases scientifiques qui sont biochimiques ou qui sont, on peut en parler, le décrire. Et l'astuce, le grand problème, c'est de savoir si c'est vraiment le cerveau qui est responsable de l'ensemble de notre psychologie ou s'il y a une psychologie qui est à côté. Moi, je pense que c'est dans le cerveau, et comme on commence à comprendre comment fonctionne un cerveau et aussi comment il dysfonctionne, évidemment, là, on a une approche évidemment très intéressante pour les thérapeutes, pour les psychothérapeutes qui prennent en charge ces malades. Là, il y a deux types d'approches. Il y a une approche qu'on appelle psychodynamique, disons la psychanalyse, par exemple, ou d'autres approches qui concernent l'interaction avec les individus sans prendre en compte ce qui se passe là-dedans.
Et qui va influencer
le cerveau.
Et puis,
il y a une approche qui mêle les deux. Et je pense que nous tendons, les uns et les autres, les scientifiques, les psychiatres organicistes d'un côté et les psychodynamiciens tendent maintenant enfin à se parler. Ce ne sont pas deux, il ne faut pas le considérer comme deux chapelles séparées.
C'est un nouveau dialogue, Christophe Massin, aussi, pour quelqu'un comme vous qui travaille beaucoup dans le domaine de la spiritualité aussi.
Oui, mais enfin, les neurosciences m'ont toujours intéressé. Pour moi, il n'y a pas du tout d'antinomie. Au contraire, il y a vraiment un grand intérêt à comprendre comment nos conditionnements, la peur est une émotion conditionnante et à très long terme. Donc, de voir comment ça fonctionne avec l'amygdale, certaines structures du cerveau, c'est important de voir comment ça marche pour aider les gens, en fait.
Ouais. Justement, Christophe Massin, lorsque vous dites que la peur mobilise des moyens extrêmement puissants, alors comment vous l'entendez? Et puis ensuite, du côté des neurosciences, comment peut-être on peut le voir aussi à l'image, hein?
En termes d'adaptation de survie, la peur mobilise pour éviter le danger des moyens très puissants. Mais encore faut-il que ce soit adapté. Et souvent, nos mécanismes de peur sont assez archaïques. Nous viennent on voit ça dans les espèces moins évoluées que la nôtre. Et nous gardons des mécanismes qui sont assez brutaux, en fait. Et qui sont pas compatibles, finalement, avec un homme du 21e siècle qui a affaire à des situations qui sont pas des situations physiques de danger, mais des dangers plus projetés, imaginés et pas forcément réels. Donc c'est pour ça que nous avons besoin de comprendre comment ça marche, pour pouvoir nous détacher aussi de certains fonctionnements qui ne nous permettent pas une adaptation finalement de bonne qualité. Sous prétexte de se prémunir, finalement, on va sortir l'artillerie lourde comme si pour tuer un moustique, on sort une mitraillette. Ça va pas, en fait.
Donc ça veut dire que la peur a une fonction particulière? C'est aussi un mécanisme de survie?
Voilà, bien sûr, la peur est là pour préserver la vie. C'est sa fonction première. Mais pour nous, on va interpréter, parce que nous avons des capacités de représentation et d'imagination, certaines situations qui ont pu nous faire peur dans l'enfance, par exemple, nous allons le projeter sur des situations de présent. Bah tiens, j'ai peur de mon patron, j'ai peur de lui parler, mais comme si ma peur me dit, attention, pas danger mortel, mais presque. Et donc, je vais être dans un état de mal-être qui est absolument pas justifié, en fait. Donc, voilà, ça fait partie de toutes ces situations, une peur relationnelle, dans la vie amoureuse, la peur d'être abandonné, ce sont des peurs qui sont très fortes et qui peuvent conditionner notre vie, mais d'une manière, là aussi, qui va être totalement contre-productive, pas du tout nous préserver, mais au contraire, nous handicaper.
Yves Agide, sur les mécanismes de la peur, est-ce que ça dépense, est-ce qu'on dépense justement notre cerveau, en particulier, beaucoup d'énergie dans des cas pareils?
Pas plus, contrairement à ce qu'on croit, le cerveau est toujours consomme énormément d'énergie, il produit énormément d'énergie, même au repos total, il consomme 20% de l'énergie de notre corps, alors que ça pèse simplement moins de 3 livres. Mais je partage tout à fait votre point de vue, je pense que quand on a peur, il faut distinguer les grandes peurs des petites peurs. Une petite peur, c'est le moteur de l'action. C'est quand vous êtes anxieux, vous dites, il faut que je termine ce travail. C'est ce que vous faites, cher Mathieu. Il faut terminer votre émission. Donc, à ce moment-là, vous c'est le moteur de l'action. Si vous avez une grande peur, parce que ici apparaît un lion, évidemment...
On n'aura pas la même peur, tout à fait.
Ce prédateur va vous sauver... La peur va vous sauver la vie.
Oui.
Ce qui est embêtant, c'est quand on a peur, alors qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur. C'est ce que vous avez dit, d'une certaine manière. Alors, c'est là que le problème, c'est qu'on voit des patients qui ont des peurs étranges, que vous savez mieux décrire que moi, certainement, et qui en souffrent énormément. C'est la souffrance, alors qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur.
Alors c'est vrai, Christophe Massin, vous parlez de l'aspect obsessionnel de la peur, de cette faculté que nous avons à focaliser justement sur cette peur, et qui donne quasiment une impression de folie, en fait. C'est aussi pour cette raison-là que vous sous-titrez votre livre...
Oui, autre folie au sens où la peur, justement, nous entraîne à penser beaucoup. C'est une émotion qui fait penser, parce qu'elle nous fait anticiper le futur, imaginer ce qui pourrait se passer, et pas le meilleur, évidemment. Elle va imaginer toujours le pire. Et donc, plus nous imaginons, plus la peur grandit. Et donc, on a un cercle vicieux, puisque dans notre cerveau, la représentation équivaut quasiment à la réalité. Si j'imagine une image inquiétante, eh bien, elle va augmenter ma peur. Et augmentant ma peur, je pense encore plus et je me convainc de la véracité de ce qui va arriver. Donc je suis pris au piège de quelque chose qui peut devenir effectivement complètement obsessionnel.
Et qui est totalement fantasmagorique au fond, c'est-à-dire qu'on n'est jamais dans une réalité temporelle exacte avec la peur,
hein. Alors il y a une réalité souvent dans le passé. La peur s'est pas installée là de manière irrationnelle, elle s'est installée là dans un certain contexte qui a fait que j'ai eu peur, que ça soit dans l'enfance ou plus tard, mais la peur a une tendance à généraliser, et à faire tache d'huile. Et à partir d'un objet qui me fait peur, tout ce qui ressemble à cet objet, je vais avoir tendance à généraliser ma peur et donc à projeter ma peur, en fait. Donc c'est ça le problème de la peur, c'est qu'elle se cantonne pas à la situation et surtout qu'elle va mettre en route des moyens de réponse qui sont pas forcément adaptés à la situation, qui sont aveugles en quelque sorte.
Yves Agide, est-ce qu'on la localise, la peur, dans le cerveau? Est-ce qu'il y a une petite place dédiée?
Non, je pense qu'il faut éviter ce qu'on appelle un localisationnisme un peu étroit.
Oui, avec la carte du tendre du cerveau.
Oui, comme le faisait Gall au début du 19e siècle. Non, il y a des endroits dans le cerveau où, effectivement,
quand même,
le langage chez
zones,
un droitier, voilà, c'est dans la région temporale gauche. Mais je vous rappelle que la région temporale, c'est immense. C'est comme un cerveau à soi seul. Donc c'est vrai qu'il y a quand même une certaine localisation. Mais on ne peut pas localiser la peur vraiment. Mais par contre, on peut localiser les circuits de cellules nerveuses qui contribuent et qui génèrent éventuellement la peur et qui peuvent éventuellement la contrôler. Oui, on le connaît pour l'ensemble des émotions. On le connaît en particulier pour la peur jusqu'à un certain point.
Ouais. Valérie nous dit « La peur du loup est solidement ancrée alors qu'il est un animal sauvage et qu'il craint l'homme. Comment expliquez-vous ces peurs de l'inconscient collectif ?» Alors, un exemple parmi tant d'autres, Yves Agide.
Oui, oui, mais c'est vrai pour beaucoup de personnes ont très peur des petites souris, une petite souris qui traverse. Je vois ça chez les dames très souvent, ou des insectes. Alors pour le loup, il y a aussi, il me semble qu'il y a des raisons. Un loup sauvage, quand ils sont une meute de loups, c'est pas.
On a raison d'avoir peur.
On a raison d'avoir peur, me semble-t-il.
Thierry nous demande si nous venons tous au monde avec le même capital confiance, justement, Christophe Massin.
Non, pour moi, clairement, il y a des différences. Ben, quand on arrive au monde, on a déjà une vie fœtale derrière soi, et dans la vie fœtale, il se passe déjà beaucoup de choses. On a fait des expérimentations animales sur le stress, et si une mère est particulièrement stressée pendant la grossesse, on va constater que les petits, chez le rat par exemple, vont être beaucoup plus vulnérables au stress que des petits ratons qui n'auront pas eu une mère stressée. Chez l'être humain, on peut constater aussi qu'un stress maternel intense a également des répercussions. Donc il y a des facteurs qui tiennent à la grossesse, il y a certainement des facteurs génétiques également. Mmh. Il y a tout un ensemble de facteurs qui font que non, nous sommes très inégaux à la naissance, compte tenu de notre constitution génétique, de notre vécu fœtal, etc. Non, nous ne sommes absolument pas égaux.
Allez, justement, pour retrouver la confiance, eh bien, on va donner quelques clés dans un instant avec vous. C'est l'objet de cet ouvrage, Une vie en confiance, juste après Eau de Zen et Souffle le vent.
J'en ris, laisse même mes dents prendre le soleil. Je ramène ma fraise là où c'est triste. Je te prends la main, sentir couleur, structure, culture en auxiliaire. J'ai l'air de faire des rimes vivantes. On tourne en valse, loin du ciment. Les grandes ce monde, je les calcule pas. Ça me fout la gerbe de voir la merde. Alors je me perds dans le fond de tes yeux et je danse avec les deux. Allons plus loin en autarcie. Voir comme c'est beau, les ciels pluvieux, qu'un jour pluvieux, je puisse dire, comme tout est beau, avec le sourire, et nique sa mère, je veux la lumière, jusque j'ai pas, des choses primaires, le vent clairé, l'esprit serein, le chant du ciel, et l'amour des chiens, l'amour de ma mère, ça me suffit pas, je voudrais qu'elle aime, la terre entière, mais ça les gens, apprécient pas, ils disent qu'il faut, rester au pas, des fois c'est sec, comme une biscotte, on n'aime pas le mec, qu'on est devenu, on se laisse berner par le jaune du toc et on regrette ce qu'on a perdu.
Souffle le vent, eau de zen, à l'instant sur France Inter, et Thierry Dupin qui signe la programmation de notre tête au carré pour dépasser les peurs et retrouver la confiance. C'est le thème de l'émission cet après-midi avec mes invités Christophe Massin pour ce livre Une vie en confiance chez Odile Jacob et le neurologue Yves Agide. Les messages sur franceinter.fr. Martine, tiens, à cette question peut-être pour vous, Christophe Massin. Quelle stratégie mettre en place dans les périodes où le manque de confiance en soi et la peur sont moins présents, dans les moments où on est au contraire à l'équilibre? Comment faire de la prévention à la perte de confiance? C'est une jolie question, ça. Alors,
C'est sûr que la confiance se cultive comme un jardin. Et elle s'appuie sur différents éléments. Elle s'appuie sur des éléments corporels, sur le vécu du corps. Ben voilà, comment je me sens dans mon corps. Plus on est enraciné et en contact avec le sol, il y a les mythes antiques d'Hercule qui ne vient à bout d'un géant qu'en le soulevant de terre, et il l'étouffe dans ses bras, il le coupe de la terre qui est sa mère, en fait. Et ça nous montre bien ce mythe, oui, que notre relation avec la gravité, avec la terre, bah, quand on a peur, on a le centre de gravité qui remonte, on est fragilisé, en fait. Donc oui, cultiver par certaines pratiques, quelles qu'elles soient, corporelles, qui nous ancrent dans le sol, c'est une manière. Cultiver aussi un certain état d'esprit, justement, est-ce que je suis ouvert à la vie, accueillant vis-à-vis, y compris de ce qui me dérange, ou je vis dans l'inquiétude que ah, ça va bien, mais ça va s'arrêter. Non, c'est sûr que la vie évolue et que tout va pas toujours aller bien. Donc, est-ce que je reste aussi dans une disposition d'ouverture en étant prêt à accueillir éventuellement quelque chose de désagréable, et avec aussi une écoute de ses propres besoins, c'est-à-dire de pas attendre d'aller mal, effectivement, pour prendre en compte ses besoins. Parce que souvent, c'est quand on a le couteau sur la gorge et qu'on va mal qu'on se dit, tiens, il faudrait peut-être que je m'occupe de mes besoins. Donc la confiance va être nourrie par ces différents éléments. Là, je dis très rapidement, comme ça, quelques pistes.
Yves Agide, sur la façon de prévenir, justement, le manque de confiance.
Je pense que pour avoir confiance en soi, il faut être gratifié, il faut faire des choses qu'on a envie de faire. Et il faut éprouver une satisfaction par ce qu'on fait. C'est pas toujours évident. Moi, je vois des gens qui sont, par exemple, engagés dans une activité et qui ne leur convient pas, ou dans un métier qui ne leur convient pas, ou dans un bureau qui ne leur convient pas. Il faut, avec intelligence, trouver ce qui va vous gratifier vous-même. Donc ça, je crois que c'est très important, parce que si on a cette confiance, à ce moment-là, on se domine. Et si on arrive à se dominer, eh bien, les difficultés que vous avez évoquées il y a un instant, comme de se dire qu'est-ce qui va se passer après, eh bien, on peut le contrôler. Je pense aussi que les gens doivent, c'est un autre aspect, apprendre ça. On n'apprend pas à l'école à avoir les difficultés. Nous voyons dans les hôpitaux des personnes chez lesquelles les malheurs s'accumulent. Ils ont perdu un proche, il y a un enfant qui est né, qui est mort, il y a un accident, il y a le grand-père est malade, on est souffrant soi-même. Tout ça, c'est des choses qui arrivent dans la vie, dans toutes les existences, il y a des malheurs. Et si on pense que la vie est rose, elle va toujours se passer dans la routine et dans un bonheur à la Schtroumpf, c'est une énorme erreur, parce que le jour où il y a un problème, on est désarmé.
Ouais, justement, l'accumulation des peurs. Alors, la vue autrement, vous allez le voir dans la série Monk sur les différentes phobies possibles.
18 juillet. Pour Adrien Monk, commence une journée comme les autres. Il passe l'aspirateur dans son appartement, puis il nettoie l'aspirateur, puis repasse l'aspirateur.
Oui, il a ses particularités.
Par exemple ?
Il a peur de l'altitude, peur des microbes. Des mouches, peur du lait.
La foule, les ascenseurs, le feu.
Les lapins, les tunnels, les ponts aussi.
Les bateaux.
Le café sans caféine.
Les éclairs.
Le vent, il a peur du vent.
Les œufs blancs.
Oui.
Les gens à poil. Celle-là, elle est dans son top 3. Je dirais la mort en 1 et les gens à poil en 2.
Voilà, la série Monk. Christophe Massin, on voit que le spectre de la peur est extrêmement large dans cet extrait. De quoi on a peur, alors, exactement?
Et je voudrais faire aussi une remarque, c'est que la peur, là, est sujet de moquerie. Ce qui va encore accentuer le malaise des personnes. Parce que quand on a peur, ben, on se sent ridicule, on se juge, on se rabaisse. Et ça fait partie, ça augmente le problème. Donc je voudrais le dire au passage, pour que les personnes qui ont peur ne se jugent pas, ben, il se trouve qu'on a peur. Donc après, le problème, c'est qu'on devient esclave de sa peur, que la peur nous tyrannise. Et là, effectivement, il y a vraiment un chemin à faire. Ouais.
Pour avec sortir. Un cercle vicieux duquel on ne sort plus, au fond.
Voilà. Mais donc, oui, des peurs, il y en a des quantités. On ne va pas s'amuser à en faire l'inventaire.
Vous en distinguez deux grandes formes. En tout cas, ces peurs occasionnelles et puis ces peurs plus profondes et qui sont plus sourdes aussi. Hein.
Voilà. Donc, on peut effectivement distinguer des peurs qui sont liées à des situations réelles de danger. Donc, j'appelle plus des peurs physiques ou animales. Et puis, toutes ces peurs, justement, qui nous habitent souvent depuis le passé, qui sont des peurs, la peur de la maladie, la peur d'avoir un cancer, la peur de perdre ses moyens, la peur d'être jeté, la peur d'être abandonné. Toutes ces peurs-là, elles tiennent à notre histoire et elles vont plutôt se projeter sur les situations et nous entraîner, finalement, à réaliser souvent ce que nous redoutons. Paradoxalement, si j'ai peur du rejet, finalement, je vais me débrouiller pour créer des situations où je me mets à part et finalement, je me sens rejeté. Donc, la peur, au lieu de nous préserver, dans ces situations, va exactement à l'inverse. Alors que son rôle est de nous protéger, en fait.
Ouais. D'où l'obligation, je dirais quasiment, de bien identifier ses peurs pour pouvoir mieux les contrecarrer et ne pas répéter à l'infini les mêmes situations.
Et des peurs qui sont insidieuses, dont on n'est pas forcément conscient. La peur du lion... ça, on est conscient. Mais que j'ai peur du jugement et que ça me conditionne énormément dans mon quotidien, ça, j'en suis pas forcément conscient. Et pourtant, ça va être beaucoup plus handicapant en réalité.
Yves Agide, alors différents gradients donc, à la peur, ça on l'entend bien. Et puis on va arriver sur la confiance aussi dans un instant. On entendait aussi dans l'extrait les troubles obsessionnels compulsifs, qui étaient très clairs.
Je pense que, comme vous l'avez dit d'ailleurs, il faut bien distinguer, les peurs qui font souffrir et des peurs qui font pas souffrir. C'est normal d'avoir peur de temps en temps quand on traverse la rue, simplement. Et parce que ça nous évite des accidents. Le problème de la peur devient gênant à partir du moment où on en souffre, où la personne en souffre. C'est ce que vous disiez d'une certaine manière. Alors, dans les troubles obsessionnels compulsifs, c'est assez particulier. Ce qu'on appelle les TOC. Qu'est-ce que c'est que les TOC? Ce sont des gens qui ont des obsessions. D'ailleurs, vous l'avez dit, dans ce cercle vicieux que vous avez évoqué, de la peur, il y a tout d'un coup l'obsession. Vous avez parlé dans l'extrait qu'on a entendu des gens qui se lavent les mains, qui ont peur des microbes.
Typique.
Alors, c'est une obsession catastrophique. Les gens savent que c'est idiot, mais ils en ont peur quand même. Alors, qu'est-ce qu'ils font? C'est ce qu'on appelle une obsession. À ce moment-là, ils ont des compulsions pour essayer de limiter, de supprimer ces obsessions. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se lavent les mains tout le temps. Et ils se lavent les mains, ensuite ils lavent le gant de toilette, ils lavent plusieurs fois, etc. Ça devient catastrophique. C'est vrai pour des quantités de choses, pour des animaux, c'est vrai pour la vérification, c'est vrai pour le doute, ça peut devenir la folie du doute. À ce moment-là, les gens, si vous voulez, ce qui est extraordinaire, c'est que ces patients-là, ils savent que ce qui leur arrive est idiot, mais ils en souffrent complètement. Donc, c'est là, on est vraiment dans l'ordre du pathologique. Parfois, c'est supportable. Tout le monde est un peu obsessionnel et compulsif. On a tous nos petites habitudes, nos routines. Mais à partir de... Il y a des gens qui en souffrent absolument énormément. Et là, il y a une prise en charge psychologique, psychiatrique, qui est vraiment importante.
Et parfois médicamenteuse, d'ailleurs, dans
certains cas. Médicamenteuse ou autre. Il y a plein de façons de faire.
Ouais. On est dans le palais des émotions, là, Yves Agide, évidemment, en évoquant la peur.
Vous me faites plaisir, oui.
Le
palais, c'est le cerveau, vous voulez dire. Oui. Alors, on connaît, si vous voulez que je dise quelques mots sur la vie, on commence à connaître assez bien les grands circuits de cellules nerveuses, donc les grandes routes dans le cerveau, les autoroutes, les routes nationales, même des routes secondaires. On ne connaît pas encore toutes les ruelles qui supportent, qui sous-tendent l'apparition... la genèse et le contrôle des émotions. Il y en a dans le tronc cérébral, ici en bas. Il y en a au milieu du cerveau. C'est des systèmes d'émotions assez élémentaires. Et il y en a qui se trouvent dans les régions les plus récentes chez l'homme, les plus développées, qu'on voit chez les primates et chez l'homme surtout.
C'est votre téléphone.
Ça, c'est mon téléphone en direct. J'en suis
complètement désolé. Non, mais c'est bien parce qu'on prouve aux auditeurs qu'on est en direct. Donc c'est 14h43, 26 secondes sur France Inter.
D'accord. Donc, on connaît ces circuits de l'émotion, on connaît même la nature des substances qui sont sécrétées. on le connaît assez bien. Et donc on peut agir, en effet, par la psychologie, voilà. Par l'écoute, par le dialogue, c'est l'essentiel en psychiatrie, mais on peut aussi jouer sur les médicaments. Car on connaît ces neurones, on sait ce qu'ils sécrètent, on peut les activer ou les bloquer.
Voilà, et dites à vos amis de ne pas vous appeler pendant l'émission, il reste un quart d'heure, Yves Agide, ils sont impatients certainement de vous dire un petit mot. Pour vous, Christophe Massin, ce message de Patrick qui nous dit ceci, je suis allé jusqu'au trouble anxieux généralisé, avec des troubles physiques extrêmement paralysants, des douleurs entre autres, j'en suis sorti grâce à une psychothérapie, au sport et au temps qui passe. Maintenant, j'ai peur de retomber dans ce puits sans fond. Ça, c'est terrible, finalement. Mmh. On soigne ses peurs et le fait d'être soigné revient une nouvelle peur, celle de retomber à nouveau.
Mmh. Ben oui, notre peur réclame toujours être rassurée, à trouver quelque chose qui va nous garantir qu'il n'arrivera plus rien. Mais évidemment, c'est impossible et nous le savons que c'est impossible. Donc, on se fait piéger avec ça. Si on demande une sécurité sans faille, on l'aura jamais. Donc, ça fait partie pour être en paix. Justement, on est amené non pas à se focaliser sur « Ah ben, c'est ça qui va revenir » parce que effectivement, peut-être certains troubles psychiques sont récurrents, mais la vie, là aussi, peut amener tout à fait autre chose. Donc, ce qui est important, c'est d'arriver à intégrer que la vie peut, de toute façon, apporter des éléments qui vont nous déranger et que plutôt, on peut faire confiance non pas au fait qu'il arrive à rien, mais au fait que j'ai des ressources. Puisque dans une fois j'ai su m'en sortir, ben oui, je suis capable, je peux trouver en moi des ressources ou des aides extérieures qui vont me permettre de faire face. C'est ça qui est important, c'est que je peux être comme un chat qui retombe sur ses pattes et pas que je ne vais plus jamais tomber. Non, je peux retomber sur mes pieds.
Allez, on se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette discussion et toujours les messages, franceinter.fr.
You lost.
Michael Jackson à l'instant.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Le psychiatre Christophe Massin et le neurologue Yves Agide, les invités donc de l'émission pour parler de la confiance avec donc tous ces mécanismes de la peur qu'on a évoqués dans la première partie de l'émission. Beaucoup de messages. Mathieu nous dit ceci. Sans stimuli externe, le cerveau n'a rien à faire. Lorsqu'on voit un lion que vous évoquez tout à l'heure, Yves Agide, il y a stimuli. Mais pour la peur psychologique, qu'en est-il? Que pensez-vous de la socio-psychoneurologie? Alors, Yves Agide, vous avez une réponse là-dessus?
Pour moi, c'est la même chose. Il n'y a pas de psychosocio-neurologie. Il y a des neurologues qui s'occupent des problèmes du cerveau et des psychiatres. Pour moi, c'est à peu près la même chose, mais même si les pratiques sont légèrement différentes. Alors, le mot socio intervient, c'est tout à fait normal, parce qu'un individu est dans un milieu social, et donc, bien sûr, il est en érection. Donc, l'environnement agit sur votre cerveau, peut vous fournir des peurs, et votre cerveau va aussi créer des situations, par les actions qu'il a, qui peuvent modifier l'environnement. Et le rendre, vous amener de la peur. Donc, bien sûr, la prise en charge d'un malade en psychiatrie, c'est toujours prendre l'individu, mais aussi le contexte dans lequel il vit.
Lucas demande, Christophe Massin, est-ce que ce manque de confiance est contagieux? Ma copine n'est jamais bien sûre d'elle, dit-il, et j'ai l'impression d'avoir moins d'aplomb qu'avant.
La peur est contagieuse. On le voit dans le monde animal. Mais on le voit chez les humains à travers des phénomènes de masse et aussi entre les individus. Et on voit dans un service au travail, s'il y a une rumeur de licenciement qui court dans le service, eh bien, on voit très bien la peur se répandre comme une traînée de poudre. Donc oui, nous sommes aussi construits pour que nos émotions se communiquent en direct, je dirais au-delà des mots, par vraiment le vécu.
Donc il y a quelque chose
corporel.
De très perméable aussi. Hein.
Oui, on est perméable aux états émotionnels des autres, en fait. Donc la peur, la confiance, de la même manière, on va être contaminé positivement par la détente de quelqu'un, mais également par son stress et son angoisse.
Retrouver la confiance, pour en parler, illustration avec un extrait de Sueur froide.
Est-il vrai qu'il est rare qu'on en guérisse?
De quoi?
De l'acrophobie.
Eh bien, j'en ai parlé à mon docteur. Il n'y aurait qu'un choc émotionnel capable de te guérir, d'après lui. Je ne pense pas que tu aies l'intention de replonger dans toi pour le vérifier.
J'espère guérir sans ça.
Et comment?
Eh bien, j'ai une théorie. Le tout est de m'habituer à l'altitude. Seulement par degrés, un peu à la fois. Tout doucement, comme ça. Et progressivement. Je vais te montrer ce que je veux dire. Allons-y. Premier étage. Voilà.
Et maintenant, l'étage au-dessus.
Parfaitement, je monte au deuxième. Et voilà. Je regarde au-dessus de moi, et je regarde en bas. Je regarde au-dessus de moi, et je vais me payer une échelle de pompier en sortant de chez toi.
Ce serait trop haut?
Non, toujours plus haut. Là, excellent test. Je regarde au-dessus de moi, je regarde en bas, je regarde au-dessus de moi et je regarde en...
Voilà, Alfred Hitchcock avec Vertigo, affronter ses peurs, l'idée était bonne hein, au départ, mais le résultat, peu probant, Christophe Massin.
Ben oui, comment on affronte ses peurs? Finalement, c'est avec un esprit, je dirais, d'exploration et d'une manière bienveillante avec soi-même, en fait. Comment on va s'accompagner dans le fait d'affronter une peur, se prendre par la main pour se dire, ben, je veux pas rester esclave de ma peur, prisonnier de ma peur. Donc, voilà. Quel est le pas que je peux faire, en fait? Chacun, nous avons des peurs d'aller voir notre supérieur hiérarchique, de dire certaines choses à notre conjoint, d'affirmer une autorité. Donc, à chaque fois, comment j'ose, en fait, franchir ce cap qui va, après, faire grandir ma confiance?
Yves Agide, quel est le rôle du subconscient dans tout ça? Parce que je trouve que l'extrait d'Hitchcock est intéressant à ce titre.
Là, si je réponds à ce que vous dites, quand vous avez dit, oui, en effet, c'est une réponse de bon sens, c'est-à-dire que psychologique, on essaye de trouver une explication. Moi, j'ai une explication un peu plus scientifique. Je me dis que les peurs, c'est plus fort que soi. On peut pas s'empêcher, quand on en a, c'est quelque chose qui vient de manière automatique. Et dans le cerveau, il y a des structures cérébrales qui gèrent l'ensemble des comportements automatiques.
C'est subconscient, justement.
Le subconscient. Moi, j'appelle le subconscient, qui inclut pour moi, entre parenthèses, c'est aller un peu loin, l'inconscient dit freudien. Et vous avez au-dessus de ça une partie de notre cerveau qui est responsable de nos comportements non automatiques. Ouais. C'est quand je fais quelque chose d'inhabituel. Quand je marche, quand je conduis la voiture, c'est complètement automatique. Je ne réfléchis pas, je peux parler à ma voisine, etc. Ça, c'est quelque chose de non automatique. C'est le cortex cérébral, c'est une structure la plus récente du cerveau.
Mais ça, c'est embêtant pour certaines peurs, alors, si elles sont automatiques, pour pouvoir agir sur
elles. Alors justement, l'astuce, pour moi, c'est d'essayer par notre cortex cérébral, par les régions les plus... celles qui sont les plus réflexives, si vous voulez, de contrôler ces comportements automatiques.
Donc on peut le faire quand même, on peut avoir la main dessus.
Mon idée, c'est ça. Ouais. Donc si vous avez une réflexion sur votre peur, si vous, avec le thérapeute qui vous écoute, si vous expliquez vos peurs, progressivement, vous prenez conscience de ces peurs qui n'ont peut-être pas de substrat. Et qui vous font souffrir sans raison.
Et donc là, on agit sur le cerveau, alors, du coup ?
Bien sûr.
Donc, on voit bien la rencontre entre vos deux disciplines, là, pour le coup.
C'est parfait.
Vous faites la promotion du travail de Christophe Massin, donc sur le psychisme et la façon dont on peut, alors, du coup, agir réellement sur la biologie aussi de notre cerveau. Hein.
Oui, c'est-à-dire en se rapprochant de la peur, parce que, justement, ce sont des circuits, moi, je partage vraiment ce sentiment que ce sont des circuits différents. Mmh. Et pour agir sur la peur, il faut se mettre à son niveau. C'est-à-dire, si un enfant est terrorisé, si vous lui donnez que des explications rationnelles, vous n'aurez pas de prise. Il faut être proche, je dirais, viscéralement de la peur. Ouais. Et du vécu de la peur.
Vous dites que ça cohabite toujours, au fond, hein, la confiance et la peur. Ce sont deux choses qui cohabitent, en tout cas.
Pas toujours, non. Ce que je voulais souligner, c'est que ça peut cohabiter, que le fait d'avoir peur n'exclut pas la possibilité d'avoir confiance, ce qui n'est pas pareil.
Oui, alors la confiance, en tout cas, vous expliquez que ce n'est pas un optimisme béat, et que, évidemment, il y a à côté de la confiance, justement, des éléments...
Au contraire, c'est un réalisme, la confiance. C'est un profond réalisme, c'est de pouvoir voir les choses comme elles sont, accueillir les choses comme elles sont, et surtout voir que j'ai plus de ressources, j'ai pas le contrôle sur tout, mais je peux me créditer d'avoir la possibilité de faire un chemin avec une difficulté. C'est plutôt ça. Pas instantanément, forcément.
Vous croyez à la confiance absolue, Christophe Massin ? Cette expression, elle existe, mais est-ce qu'elle veut dire quelque chose vraiment ?
Oui, pour moi, elle veut dire quelque chose dans le sens où une confiance absolue, c'est de réaliser que si on est dans une attitude intérieure de confiance, on va constater que les choses sont plus fluides. C'est pas magique, c'est qu'en fait, on est plus détendu. Quand on a peur, on est crispé et la crispation va entraîner des effets négatifs dans les relations avec les autres, dans l'action. Donc, plus on est dans la confiance, plus on est dans la fluidité, en fait.
Et vous dites que la respiration contribue beaucoup, d'ailleurs. Hein,
c'est un des éléments.
Cette décrispation.
Oui.
Il agit dans 30 secondes.
Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que, effectivement, d'avoir confiance, comme on l'a dit, peut aide l'individu. Mais d'avoir trop confiance, la confiance absolue, moi j'appelle ça un crétin. On en voit malheureusement des gens qui ont tellement confiance en eux qui font état d'une prétention dans l'existence qui est insupportable.
Eh bien voilà, on terminera en parlant de crétins. Merci beaucoup pour cette belle conclusion. Imagine patatras, le dernier mot de cette émission. Christophe Massin, Une vie en confiance. C'est un dialogue sur la peur et autres folies. Et ce livre vient de paraître chez Odile Jacob. Et puis imagine, on peut lire L'homme subconscient, justement, le cerveau et ses erreurs. C'est chez Robert Laffont, livre toujours disponible, même s'il est paru en 2013. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci beaucoup.
Merci aux auditeurs pour les messages. Bonjour Fabrice Drouel.
Bonjour Mathieu Vidard.
Allez, le thème d'Affaires Sensibles dans quelques minutes, quel est-il ?
L'enlèvement et la libération, bien sûr, d'Ingrid Betancourt. Et nous en parlerons avec notre invité Roméo Langlois, journaliste à France 24, auteur de plusieurs reportages sur la Colombie. Et lui-même a été otage des FARC, figurez-vous.
Eh bien, on vous retrouve dans quelques minutes.